Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus. De fait, nous sommes 100 personnes pour nous surveiller, nous dire ce qu'il faut dire, poser des questions. Mais une petite expérience nous a appris plus ou moins quelles étaient les questions attendues, donc nous avons essayé d'y répondre en présentant d'abord en effet brièvement peut-être l'événement, puisque 1453 c'est une date importante dont certains ont même voulu faire le début des temps modernes. Bon, chacun ses débuts. Et ensuite, peut-être en essayant de vous expliquer ce que nous avons voulu essayer de faire nous-mêmes avec ce livre qui est le résultat d'une très longue histoire. Peut-être qu'on peut commencer par dire deux mots de ce que c'est que l'Empire byzantin en 1453.
Oui, alors donc, parce que vous avez donc l'ottomaniste à ma droite et je suis byzantiniste et je représenterai aussi un petit peu le travail de ceux qui ont contribué sur les sources latines dans ce livre, puisque les latins aussi ont un rôle très très important et du point de vue des sources ont beaucoup contribué à notre connaissance de l'événement. Donc l'Empire byzantin en 1453, c'est Constantinople et son arrière-pays, mais c'est essentiellement la ville. Et ce qu'on appelle la Morée, c'est-à-dire le Péloponnèse. L'essentiel des autres territoires de l'ancien Empire byzantin ont déjà été conquis par les Ottomans, et en particulier les Balkans, l'Asie mineure depuis le XIVe siècle, et les Balkans à la fin du XIVe siècle. Mais il ne faut pas voir pour autant un empire complètement déclinant et dévitalisé. C'est-à-dire que c'est un empire avec un empereur byzantin qui a encore un rôle diplomatique très important, qui a encore un prestige dans les relations avec les autres grandes puissances occidentales tout à fait remarquables et qui demande du reste de l'aide aux rois et princes d'Occident pour venir à son secours puis devant l'avancée des Turcs, puisque c'est donc un empire centré sur la ville, sur la cité de Constantinople, mais qui est encore capable d'avoir une activité économique, diplomatique, culturelle très importante et religieuse, puisque le patriarche de Constantinople est aussi le patriarche pratiquement de toute l'orthodoxie à ce moment-là, mais du point de vue militaire, qui est sous la menace des Ottomans, des troupes turques, qui encerclent donc la ville.
Oui, parce que d'un côté, vous avez donc cet empire byzantin qui est loin d'être négligeable, grande cité commerçante, mais aussi plus en raison de ses territoires. Et puis, l'Empire ottoman, qu'est-ce que c'est ? C'est à l'origine une petite principauté turcomane qui s'est trouvée installée à l'ouest, à la frontière même de ce qui restait de l'Empire byzantin, du côté de Scamandre, et qui a cru progressivement par des combats contre les Byzantins, par des razzias pour récupérer quelques moutons, quelques esclaves, mais aussi qui a cru en s'imposant progressivement à d'autres émirats turcs qui étaient à côté, et puis qui a passé les détroits. En fait, il a passé les détroits en grande partie à cause des Byzantins eux-mêmes, car il ne faudrait pas s'imaginer que ces deux mondes sont simplement deux mondes antagonistes qui se regardent en chaîne de faïence de part et d'autre d'une ligne idéale à la Giraudoux. On la passe, cette ligne, on la passe en effet les armes à la main, mais on la passe aussi avec son porte-monnaie pour faire du commerce. On échange à l'occasion des idées. On peut avoir des intérêts politiques et militaires communs. Et ce qui s'est passé, c'est que les conflits internes byzantins ont pu amener certains clans byzantins, certains partis, disons, à utiliser les services mercenaires de soldats, je dirais turcs, parce qu'il n'y a pas eu que les Ottomans. Mais il y a eu entre autres les Ottomans, et c'est ainsi qu'ils ont été amenés à se retrouver en Thrace et à mettre pied dans la presqu'île de Gallipoli. Et puis ils ont profité d'un tremblement de terre pour s'emparer de la place et y rester. Et puis, ils se sont alors développés lentement dans ce qu'on appelle la Roumélie, donc la Turquie d'Europe, comme on a dit par la suite aussi, la Thrace orientale, et puis plus loin. Alors avec des difficultés, je n'entre pas dans le détail, pas seul probablement, mais finalement ce sont les Ottomans qui se sont imposés et s'étaler jusqu'en Bulgarie, jusque vers les pays slavophones, jusqu'à l'Adriatique. Au moment où nous sommes, en 1453, la ville de Constantinople est au milieu de l'Empire byzantin et elle constitue une véritable gêne parce qu'elle contrôle les détroits, elle les contrôle dans les deux sens. Elle les contrôle de la mer Noire vers la mer de Marmara et l'inverse. Et c'est très important, en particulier pour les Génois qui sont installés en mer Noire et aussi pour l'approvisionnement de Constantinople. Mais elle contrôle aussi le passage d'un continent à l'autre. Hein, et c'est particulièrement gênant pour les Ottomans qui n'ont pas les moyens maritimes encore à l'époque de passer facilement d'un endroit à l'autre. Et à l'époque, il n'y avait ni pont ni tunnel. Maintenant, c'est un peu différent. Ce qui fait qu'il y avait bien des raisons pour que ce fût dérangeant pour les Ottomans d'avoir comme ça cette espèce de verrue au milieu de leur empire. Mais avant de revenir sur les origines immédiates de l'affaire de 1453, il faut encore une fois dire que pour autant, ces gens-là avaient des rapports, ne s'ignoraient pas. Vous avez des combattants musulmans côté ottoman qui sont en fait des Grecs convertis. Vous avez des combattants chrétiens côté byzantin qui sont des Turcs convertis, dans l'autre sens, bien sûr. Vous avez des échanges, des Turcs qui se promènent à Constantinople, qui la connaissent, à telle enseigne d'ailleurs qu'en 1453, quand les choses vont commencer à empirer, l'empereur va fermer les portes et un certain nombre de Turcs qui étaient là à faire du lèche-vitrine ou à aller voir les filles, je ne sais pas très bien, se sont trouvés prisonniers, ce qui a été un des casus belli à l'époque. Et puis, il y a aussi des gens intellectuels. Peut-être que vous voulez en dire deux mots.
Oui, alors, du côté des intellectuels, on est quand même, à cette époque-là, en pleine Renaissance. Hein. Donc, il y a des Italiens et certains qui ont témoigné, justement, et dont on a traduit des textes. Des Italiens qui se trouvent à Constantinople à ce moment-là pour apprendre le grec, puisque les Italiens cherchent à revenir aux textes originaux, en particulier Aristote et Platon. Et donc, ils vont leur manière d'apprentissage du grec, c'est d'aller à Constantinople pour avoir des professeurs sur place. Parce qu'il y a très très peu encore, il y a eu un petit épisode à la fin du XIVe siècle où Manuel Chrysoloras avait une chaire d'enseignement du grec à Florence pendant 3 ans, dans les années 1390. Mais il n'y a pas de chaire continue d'enseignement du grec en Occident à cette époque-là. Et donc les Italiens qui veulent se familiariser avec le grec, c'est le grec moderne de leur époque hein, qu'ils apprennent. C'est le grec byzantin, le grec vivant. Et puis ensuite, ils retournent voir les textes plus anciens. Donc on a quelqu'un comme un auteur comme Pousculo ici, qui est c'est pas quelqu'un de très connu, mais il est sur place parce qu'il étudie le grec. Et du point de vue des échanges intellectuels, il faut quand même aussi souligner qu'il y a le problème de la confession qui entre en jeu, c'est-à-dire les rapports entre orthodoxes et, alors on ne va pas dire catholiques, on évite de dire catholiques pour cette période, mais donc les chrétiens latins, romains, qui dépendent de l'obédience du pape de Rome. Donc ça c'est une question particulièrement brûlante juste avant la chute de Constantinople. Parce qu'en 1439, il y a eu le concile de Florence. Donc, ce sont les Byzantins, une délégation byzantine menée par l'empereur Jean VIII Paléologue, qui est allée à Florence. Alors, d'une part, pour obtenir du pape qu'il donne un mot d'ordre de croisade contre les Turcs, cette aide militaire que les Byzantins réclament de l'Occident, dont je parlais juste avant. Mais en échange, le pape demande aux Byzantins de reconnaître son obédience, justement, et de faire retour en fait vers l'Église de Rome, alors que l'Église byzantine, c'est l'Église orthodoxe, c'est l'ancêtre des Églises orthodoxes d'aujourd'hui, et il y a des différents à la fois culturels, des différentes traditions et des différents théologiques. Des controverses théologiques, celle du filioque en particulier, qui ne sont pas du tout à sous-estimer pour l'époque. C'est-à-dire que ce sont vraiment des enjeux de controverses importants et qui mettent en jeu, du point de vue des Byzantins, leur avenir en réalité, puisque soit ils se rallient au christianisme latin, et ils peuvent espérer obtenir cette croisade qui peut les sauver du danger ottoman, qui est quand même très pressant et réel et visible. Puisqu'il y a quand même, alors là je fais une petite parenthèse, mais il y a plusieurs sièges avant celui de 1453, on y reviendra. Donc soit ils obtiennent cette aide de la part des latins et ils se plient aux injonctions de la papauté, puisque c'est quand même à peu près de cette manière que les choses se posent. Il y a une dissymétrie, un déséquilibre évident dans les relations. Mais à ce moment-là, ils risquent de perdre leur acception... Leur identité, je voulais éviter le terme, mais c'est ça. Leur identité religieuse. Parce qu'on n'a pas une idée très précise de ce que pouvait être l'identité d'un Byzantin au XVe siècle. Je veux dire, c'est une question disputée pour nous. Enfin, on évite de plaquer des problématiques actuelles sur cette période-là. Mais la question religieuse est quand même particulièrement aiguë à ce moment-là. Et donc, vous avez du coup trois tendances, je termine là-dessus, dans la population byzantine. Les unionistes, ceux qui sont donc pour l'union de Florence et pour cette alliance avec les latins. Les anti-unionistes, l'inverse, ceux qui refusent l'union et qui veulent absolument essayer de se défendre tout seul et s'en remettre in fine à Dieu et à l'aide divine. Et une troisième tendance qui est celle de ceux qui sont déjà passés ou sont sur le point de passer au service du sultan et qui acceptent le changement de régime, qui l'anticipent même pour certains.
Oui, parce que... Il y a différentes façons de voir les choses. Ce qu'il faut éviter, c'est de risquer son âme. Alors, est-ce qu'on risque son âme en étant sous la domination des Ottomans ? Pas nécessairement. D'abord, signalons, pour les raisons que je venais de dire, qu'au moment où nous sommes, en 1453, vous avez des dizaines de milliers de Grecs orthodoxes qui sont sujets ottomans, des gens qui vivent à Salonique, par exemple, ou ailleurs. Qui vivent normalement leur vie de chrétiens au sein de l'Empire ottoman. Très tôt, de grands monastères, comme celui de Latos, ont compris qu'il y avait tout intérêt à s'entendre avec cette puissance montante pour garantir un certain nombre d'avantages, de possibilités. Et ceci s'explique par quelque chose dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez entendu parler, qui est le statut de zimmi. Qu'est-ce que c'est qu'un zimmi ? C'est quelqu'un qui a accepté, qui appartient à ce qu'on appelle une religion du livre, donc en pratique des chrétiens ou des juifs, voire des zoroastriens, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des gens qui ont accepté la domination de l'islam, c'est-à-dire que c'est l'islam qui... des représentants de l'islam, des dynasties musulmanes qui ont le pouvoir politique, mais qui de ce fait, acceptent aussi d'avoir une situation de sujet de seconde zone, c'est-à-dire que certains types de fonctions ne leur sont pas accessibles, c'est-à-dire aussi qu'ils ont à subir une pression fiscale plus importante que les musulmans, ce qui peut d'ailleurs signifier malgré tout une pression fiscale inférieure à celle qu'on subit quand on est sous domination vénitienne. Bon. Mais en revanche, ça leur assure une totale liberté de culte, la possibilité de régler eux-mêmes leurs affaires internes, en particulier en matière judiciaire, dans tout ce qui concerne la vie quotidienne, je ne sais pas, des affaires de divorce quand c'est possible, ou des choses de ce type. en ayant recours à la justice du cadi que quand ils le souhaitent vraiment, sauf quand ils ont affaire avec des musulmans, auquel cas ça s'impose. Mais entre eux, ils n'y sont pas contraints. Et souvent, ils le font spontanément, soit parce que la loi islamique sera plus favorable à l'une des parties qui va choisir à ce moment-là cette solution, soit parce que le cadi n'est pas seulement un juge, c'est aussi un notaire. Et donc, ça va permettre un enregistrement officiel et permettre d'avoir un papier qui fera encore plus foi que le papier qu'on aura obtenu de son évêque. Bon, voilà. Donc, vivre comme chrétien dans l'Empire ottoman musulman, c'est ennuyeux parce qu'on n'est plus maître totalement chez soi, mais ça n'est pas la fin du monde, si du moins les choses se sont bien passées. Alors évidemment, si votre ville a été prise de force, ça c'est une autre paire de manches, et nous y reviendrons. Mais en soi, ça peut être une situation plus intéressante que de se trouver sous la coupe d'un latin hautain, colonialiste et déplaisant. Ce sont des choses qui sont arrivées. Et dernier point sur les latins, puisque là nous sortons de ce sujet-là, l'autre point important, c'est que dans Constantinople, en 1453, nous avons un certain nombre de gens qui sont là, des Vénitiens qui font à demeure ou qui sont de passage, des Génois qui vivent à Galata, de l'autre côté de la Corne d'Or, dans une cité qui est la leur, et qu'ils vont perdre un peu après en raison de leur attitude un peu ambiguë, mais dans des conditions qui vont se révéler finalement plutôt rassurantes. Et c'est important de le souligner parce que ces gens-là vont jouer un rôle considérable dans la défense militaire de la place.
Oui, sur Péra, puisqu'on parlait des latins intellectuels qui étaient présents à Constantinople en 1453, c'est une toute petite minorité. La grande majorité des latins qui sont là, ce sont alors des colons, mais encore une fois au sens de colonie pour l'époque, hein, c'est des colons qui sont en lien avec leur métropole et qui sont là surtout pour faire du commerce. C'est-à-dire que Péra, Galata, est une place commerciale très très importante, qui débouche vers la mer Noire, où il y a d'autres comptoirs génois aussi. Donc ça, c'est pour le commerce, le grand commerce génois en Méditerranée. Et la même chose avec les Vénitiens. Les Vénitiens ont un quartier à Constantinople depuis très longtemps, et dans lequel ils sont très actifs aussi.
Alors, peut-être un dernier point, si vous permettez, avant d'aborder la question du sort des vaincus, qui est très importante. Pour la profondeur historique de l'événement, côté musulman, on a vu que c'était une inquiétude croissante du côté des Occidentaux. On a peut-être oublié de mentionner que Constantinople avait déjà été prise. Peut-être qu'il faudrait en dire deux mots, parce que ça a été traumatisant pour les Byzantins.
1204. Oui, 1204. Oui. Donc 1204, c'est la quatrième croisade qui a été détournée vers Constantinople, alors que son but était Jérusalem, comme toute croisade, et qui a donné lieu à l'établissement d'un empire latin de Constantinople, jusque de 1204 à 1261. Donc occupation par les latins de l'empire et récupération de tous les symboles impériaux, etc. L'empire byzantin, lui, part en exil à Nicée, c'est-à-dire
Iznik aujourd'hui.
C'est la version qu'on a conservée, parce qu'en fait, il y a plusieurs concurrents potentiels pour restaurer ensuite l'empire. Donc l'un qui est à Nicée, l'autre qui est à Trébizonde, et le troisième en Épire, mais c'est celui de Nicée qui a gagné. Donc on considère que la famille Lascaris, ce sont les héritiers de l'Empire byzantin tombé en 1204, reconstitués donc en Asie mineure à Nicée, et qui ont reconquis, c'est Michel VIII, paléologue, qui a reconquis Constantinople en 1261. Donc les liens avec les Latins sont aussi compliqués de tout cet arrière-plan. C'est-à-dire que les Latins ont déjà une fois conquis militairement en réalité le pouvoir. Et donc l'alliance avec eux est toujours un petit peu ambiguë et délicate.
Voilà. Donc il y a déjà un lourd contentieux et quelques cadavres dans les placards. Et donc, j'en reviens à la profondeur historique de cette affaire pour les musulmans. En réalité, Constantinople a fasciné les musulmans depuis le début. Il en est question déjà du temps du prophète, en tout cas dans les propos qui lui sont attribués. l'éventualité, la promesse de la conquête un jour de cette ville par les musulmans est évoquée dès les débuts de l'islam. Une ville qui fascine, qui inquiète, c'est la ville au talisman, une ville qui maîtrise les eaux et la terre. Il y a de très très belles pages d'André Miquel dans sa thèse qui a maintenant 35 ans ou 40 ans, sur les géographes arabes du XIIIe siècle. Il y a plus d'une centaine de pages sur l'image de la ville pour les Arabes. Donc c'est un vieux rêve répété. Et pour un souverain musulman, c'est une gloire exceptionnelle que d'arriver à la conquête de cette ville, conquête dont on parle depuis si longtemps et qui est un but des musulmans. D'autre part, beaucoup plus matériellement, des sièges, en effet, il y en a déjà eu. Il y en a eu dans les premiers siècles de l'islam. Pour ceux d'entre vous qui sont allés à Istanbul, Eyüp, sur le fond de la Corne d'Or, c'est l'endroit où se trouve la tombe retrouvée après le siège, ou inventée après le siège, en prenant inventée dans les deux sens du terme, de Abou Ayoub, un compagnon du prophète qui est mort sous les murs de la ville. Et il y a eu d'autre part d'autres tentatives et du temps même des Ottomans, toute une série de sièges dont un particulièrement inquiétant du temps de Bayezid Ier la Foudre. Bayezid Ier, qui est donc le grand-père de Mehmed II, je crois, sauf erreur de... Non, l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père de Mehmed II, Mehmed Mourad, peu importe, et qui fut le grand vaincu de la bataille d'Ankara en 1402. Il a été défait par Tamerlan, et l'Empire ottoman a failli disparaître. Pas totalement, d'ailleurs, parce que Tamerlan, en fait, s'est borné à casser la logique impériale ottomane en construction, a redonné à un certain nombre de dynasties locales leur pouvoir, mais il n'a pas totalement détruit le domaine ottoman et surtout, il n'a pas passé le détroit. Donc, toute la partie européenne est restée ottomane et n'a pas souffert particulièrement. Même, d'une certaine manière, elle a vu arriver un surcroît de musulmans qui sont venus chercher refuge. Ça a été d'ailleurs un traumatisme considérable pour les Ottomans qui ont mis une quinzaine d'années à se remettre. Et il y a eu d'autres sièges qui ont tous eu plus ou moins le même sort. Le siège de Bayezid Ier, a été levé parce que Tamerlan arrivait. Le siège de Mourad Ier a été levé parce que des prétendants ottomans étaient en train de se lever sur ses arrières, suscités, bien sûr, par les Byzantins et par d'autres émirats anatoliens qui n'avaient pas de passion particulière pour les Ottomans. Et c'est un des gros reproches que les Ottomans ont fait aux Byzantins, à savoir d'entretenir et susciter des prétendants au trône ottoman qui, évidemment, étaient une menace. Et quand Mehmed II monte sur le trône, les Byzantins ont la maladresse de venir lui demander une augmentation de la somme qu'il versait pour entretenir un prétendant ottoman qui était entretenu chez eux à Constantinople. Ça n'a pas plu du tout à Mehmed II. Tout ça fait qu'il y avait de vieilles raisons mystiques de vouloir prendre Constantinople. Il y avait de bonnes raisons politiques, de long terme, géostratégiques, puisque c'est donc un point qui vient gêner l'Empire en son centre, que c'est d'autre part une puissance qui peut être nuisible et s'est montrée nuisible à plus d'une reprise. Il y avait toutes les raisons de faire le siège de Constantinople, mais pourquoi le faire en 1453 ? On aurait pu le faire plus tard ou avant. Alors là, on arrive à des considérations de politique intérieure plutôt. Mehmed II a régné deux fois. Il a d'abord été mis sur le trône par son père alors qu'il était un gamin de 13 ou 14 ans. Ça ne s'est pas très bien passé. Et le grand vizir que son père lui avait laissé a fini par susciter le retour de papa. D'autant plus qu'entre-temps, les Occidentaux ont voulu en profiter et ont lancé la croisade dite de Varna, qui a été arrêtée par le père Mourad, qui est revenu en hâte pour cela. Le jeune Mehmed II avait des rêves de gloire et un de ses rêves, c'était de partir à la conquête de Constantinople, chose que les hommes d'État rassis et de bon sens qui l'entouraient, laissés par son père, estimaient dangereuse, inutile, bruyante et somme toute à éviter. Quand il revient sur le trône à la mort de son père en 1451, cette fois-ci, il est maître du pouvoir. Le grand vizir Chandalar Halil Pasha est toujours là. Il est toujours aussi réticent, considérant que les risques d'une croisade d'Occident existent toujours. On a eu l'exemple de Varna dont je viens de parler. Après 1453, on aura des tentatives de ligue chrétienne. Ce n'est pas par hasard que les Ottomans ont laissé en place les murailles de Byzance. En fait, longtemps, ils se sont sentis, malgré tout, toujours en possible danger. Bon, Mehmed II, il tient vraiment, il prend sa décision. Il va de soi que le grand vizir va collaborer, mais une fois la ville prise, le grand vizir va perdre le souffle. Bon, il va être étranglé. Ce sont des choses qui arrivent au Premier ministre quand ils ne plaisent plus à leur sultan. Ceci explique, par des considérations de politique intérieure aussi, comment un jeune sultan a un besoin absolu de s'affirmer, de montrer son pouvoir, alors même qu'à chaque fois qu'arrive un jeune sultan sur le trône, autour, on se dit, bon, ça y est, c'est un jeune, il va être faible, c'est le moment d'en profiter. Ça, c'est pour l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, des partis s'agitent, et c'est au nouveau souverain, même quand il ne craint pas la concurrence, Mehmed II n'a plus de frère capable de prendre le trône à ce moment-là, de s'affirmer et d'imposer, sinon son règne, au moins son pouvoir. Donc, il y a là des considérations de politique intérieure immédiate qui expliquent aussi la décision de se lancer à l'aventure. Mais entre 1451 et 1453, tout ça va être préparé avec beaucoup de soin. Des traités vont être signés avec des puissances périphériques pour éviter d'avoir des gens sur le dos pendant la bataille. On va aller combattre le prince du Karaman, l'émirat karamanide, dont la capitale est Konya, et la principale puissance anatolienne à l'époque, et il faut compter avec. Et donc, on va aller combattre le Karaman, et une bonne victoire va le calmer pour quelque temps. On va également fondre le très gros canon avec l'aide d'experts venus de Hongrie ou d'Allemagne. On va construire une flotte. Donc tout est préparé avec beaucoup de soin. Et quand la campagne est lancée au printemps 1453, l'armée ottomane s'est très bien préparée. Et la diplomatie ottomane a également fait son travail pour que ça se passe au mieux.
Du côté byzantin, en 1451, quand Mourad Ier, le père de Mehmed II, donc, meurt, on est soulagé. On se dit un nouveau sultan, très jeune, il ne va rien se passer. Et ils comprennent assez vite, avec les préparatifs dont on va parler, la construction de la forteresse de Roumélie sur le Bosphore, que le sultan a tout à fait l'intention d'assiéger la ville. Alors, en 1453, à Constantinople, il y a la population est beaucoup moins élevée qu'elle n'a été à d'autres périodes. C'est une ville en partie dépeuplée, pas complètement, on a un peu exagéré là-dessus, mais enfin, tout de même. En partie délaissée aussi, certains bâtiments tombent aussi en ruine. C'est pas une puissance très riche à ce moment-là, et justement, c'est une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas se payer autant de mercenaires qu'il aurait fallu. Et donc on a, grosso modo, les défenseurs de Constantinople sont à peu près 7000 face à une armée ottomane gigantesque.
Que nous qualifierons d'innombrable.
Voilà. Donc 5000 Grecs, Byzantins, tout le monde a été réquisitionné pour être sur les murailles, et de l'ordre de 2000 Génois. Donc les Génois sont pour partie certains Pérotes, on a parlé des habitants de Péra, donc de Galata, ce qui est une ville génoise, vraiment juste en face de Constantinople. Donc normalement les Pérotes sont neutres, Ils ont passé traité avec Mehmet II et ils ne doivent pas intervenir. En réalité, ils passent la nuit à Constantinople, ils aident, ils relaient les combattants. Et il y a un mercenaire génois qui est arrivé avec 700 hommes et des navires, Giovanni Giustiniani Longo, qui est l'un des plus importants défenseurs de la ville, celui auquel l'empereur confie la défense. Et c'est, on peut déjà le dire, sans casser le suspense, c'est sa blessure, le fait qu'il soit blessé le 29 mai 1453 sur les murailles, qui entraîne pratiquement la débandade de l'armée.
Il faut en effet rappeler l'importance de ce fort de Rumeli-Hisarı, construit en face d'un fort qui se trouve côté anatolien, Anadolu-Hisarı, ce qui permettait de bloquer absolument le détroit par le jeu des bombardements de part et d'autre et d'empêcher assez efficacement le passage d'une flotte de la mer Noire vers Constantinople. Ça correspond en fait à une technique ottomane classique, traditionnel, c'est comme ça qu'ils se sont imposés petit à petit. On étouffe les villes en tenant les campagnes. Et au bout d'un moment, elles tombent comme des figues mûres. Commence un blocus de Constantinople. Alors ensuite, en deux mots, la technique, elle va. Il est normal qu'il y ait beaucoup moins de défenseurs que d'attaquants. Byzance aurait peut-être très bien pu tenir beaucoup plus longtemps. C'était en soi, le déséquilibre ne condamnait pas du tout Constantinople à tomber. En revanche, il y a un travail très, très précis et très bien fait avec l'artillerie, qui est quand même une arme de pointe, de novatrice à l'époque, avec des concentrations de tirs dans les endroits donnés, pour faire tomber des pans de murailles qui permettent ensuite d'essayer de lancer des assauts. Le système de mines et contre-mines, qui a aussi été beaucoup utilisé, a été moins efficace à Istanbul qu'il ne sera dans d'autres sièges par la suite. Voilà. Et bon, à un bon moment, tout s'effondre. En plus, Outinani meurt et c'est la débandade parce qu'il rentre sur son bateau. Alors, les Génois ont été accusés de trahison, de lâcheté. Bon, il est quand même mort de ses blessures peu après, le malheureux, donc peut-être que c'est un petit peu injuste. Mais tout ça crée une confusion et les troupes ottomanes vont réussir à entrer dans la ville, commençant par massacrer tout ce qu'elles avaient devant elles, avant de se rendre compte que la ville tombait. Et donc, que ça n'avait aucun intérêt, qu'il valait beaucoup mieux faire des esclaves, épillé, car évidemment, la place étant tombée par la force, Anwatan, elle était entièrement à la disposition des conquérants musulmans, en droit musulman, donc les gens qui étaient là pouvaient être asservis à volonté, et c'est ce qui a été le cas. La population d'Istanbul a été entièrement réduite en esclavage quand elle n'est pas morte. Alors, sous diverses formes, le sultan a eu droit à une portion, le cinquième des prisonniers, portion qu'il a immédiatement affranchie pour l'installer le long de la Corne d'Or. Mais il a gardé pour lui la jeunesse aristocratique pour la former au palais et en faire l'encadrement militaro-administratif de son empire, ce qui est une pratique également classique. Et puis, il y a eu tous les esclaves faits par les hommes de troupe ou les officiers, qu'ils ont revendus à des investisseurs capitalistes, musulmans ou juifs ou grecs d'ailleurs. Il y a eu ceux aussi qui ont été capables de se racheter car le sultan leur a donné une rémunération pour les travaux qu'il leur a fait faire en restauration des murailles, des bâtiments, ce qui leur a permis de se racheter auprès de leurs propriétaires et donc de se réinstaller sur place. Car c'est un point très important, le but de Mehmet II n'est pas d'avoir une ville islamique. Bien sûr, c'est une ville qui va devenir une ville musulmane, qui doit être une ville musulmane, qui va jusqu'à un certain point, concurrencer le Caire, qui est le grand centre intellectuel musulman. On va créer la grande madrasa de Fatih, qui est un établissement d'enseignement supérieur de tout premier niveau. Mais ce doit être aussi une ville d'empire, où il y aura des populations musulmanes, mais grecques, mais juives, mais arméniennes, qui vont être installées là, en partie quand elles viennent spontanément, et beaucoup aussi par des pratiques de déportation de populations, là encore, de toute confession confondue, afin de redonner vie à la ville. Mais peut-être que, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire, peut-être que, plutôt que d'entrer dans ce détail, c'est plus intéressant maintenant de vous expliquer un peu de quoi est fait le livre. Alors, le livre, en fait, n'est pas une histoire du siège. Hein. La mise en contexte qui précède, c'était simplement parce que l'expérience nous a prouvé qu'on nous demandait toujours. Le livre, qui est un très vieux projet, puisqu'il a commencé à prendre forme à la fin des années 90, qu'il est passé par trois éditeurs différents. Le premier déclaré forfait, le second était toujours preneur, mais l'histoire a fait que c'est un troisième qui l'a pris, et nous lui en sommes très reconnaissants, car le second était un éditeur purement scientifique, et donc je ne serais sans doute pas ici pour vous le présenter si ça avait été le cas. L'idée était de traduire l'ensemble des textes concernant cette affaire, quelle que soit la langue considérée, en prenant une fourchette temporelle relativement large, c'est-à-dire bien sûr les contemporains les quelques générations suivantes, étant entendu que la plupart de ces textes n'avaient jamais été traduits en français. Certains l'avaient été en italien ou en anglais, certains l'avaient été en français, mais la plupart n'avaient jamais été traduits. Étant entendu également qu'une tentative pareille avait été faite dans les années 70 par Agostino Pertusi en italien, mais nous pouvions le refaire en français d'abord. Et d'autre part, nous avons voulu être plus complets, donner plus de place aux sources orientales. C'est pour ça que je suis ici. Pertusi était un byzantiniste, qui d'ailleurs avait essayé de donner toute sa place au monde turc, mais en avait moins les possibilités qu'on les a aujourd'hui. De revenir toujours aux textes originaux, j'entends pas forcément aux manuscrits, mais à la langue de départ, alors que dans certains cas, notre prédécesseur avait été obligé de passer par des traductions de traduction, pas pour le grec, qu'il connaissait très bien, mais pour le turc. Et, bien entendu, depuis 1976, d'autres textes sont apparus, et il fallait donner toute leur place. Alors, il n'y a pas tout. Dans certains cas, je pense par exemple aux Lamentations, je pense qu'il a fallu faire quelques choix.
Alors, les lamentations grecques sont bien représentées, ce sont les lamentations occidentales, puisqu'il y en a beaucoup en fait. L'événement a eu un retentissement, un écho très très grand dans le monde occidental. Mais là, on a fait une sélection drastique en fait. On a intégré uniquement des lamentations catalanes qui n'avaient pas du tout été prises dans le volume dont Nicolas Vatin vous parlait, puisqu'elles étaient inédites encore à cette période-là. Et ces six lamentations catalanes offrent un panorama assez juste de la variété aussi des lamentations en Occident. C'est-à-dire que vous avez à la fois un appel à la croisade, des lamentations vraiment, des déplorations de la perte d'une ville telle que Constantinople. Voilà.
Alors, en revanche, côté oriental, nous avons, je pense, plus ou moins couvert tout ce qui existe et est connu en turc-ottoman, donc en turc, c'est la même langue, en arabe, mais il y a malheureusement une grande absence, c'est un chroniqueur ottoman, mais de langue persane. Et il a fallu y renoncer parce que les persianophones que nous avons contactés nous ont tous dit « ça a l'air très intéressant, mais je n'ai pas encore trouvé le verbe ». Ceci sur 150 pages. Je parle de la partie concernant, semble-t-il, la siège de Constantinople. Alors, nous n'avons pas eu le temps de continuer à chercher, mais sans doute qu'en travaillant mieux, nous aurions pu finir par le faire. C'est un regret. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, l'idée, donc, c'est de vous donner à lire ces textes, qui sont des textes de témoins, d'héritiers immédiats, parce que notre but n'était pas de encore une fois, faire un récit du siège, mais de donner à voir, c'est une autre façon de faire de l'histoire qu'en 1976, ce que signifiait un événement pour les gens de l'époque et ceux qui leur ont succédé. Et donc, de là venait l'importance de donner la parole à tous, même quand ça se répète, même quand, dans le cas, par exemple, du chroniqueur Ibn Kemal, eh bien, vous avez 5 pages de considérations sur les soldats qui sont, pareil, des tulipes rouges de sang dans le champ de la victoire, avant de trouver quelques informations pratiques utiles. Des textes qui paraissaient totalement dépourvus d'intérêt en 1950 et qui maintenant nous intéressent parce que c'est leur façon de voir les choses. Le second point, c'est que nous avons voulu éviter une partition par grand domaine culturel ou de civilisation ou de langue, appelez ça comme vous voudrez, parce que c'est un contresens. C'est un contresens parce que ces gens-là, même s'ils parlaient des langues différentes, s'ils pouvaient avoir des positions politiques différentes, et encore pas toujours, avaient des points communs, certains des historiens, que d'autres étaient des poètes, que sais-je, dans certains cas, à l'évidence, il y a des sources communes. Un chroniqueur ottoman, Tursun Bey, dans son récit du casus belli, à l'évidence, cherche à créer une synthèse entre différentes traditions historiographiques, l'une plutôt ottomane, l'autre plutôt grecque, et il est vraisemblable qu'il a utilisé des sources orales grecques, qu'il a parlé en fait avec ses collègues, ne fût-ce qu'autour du cercle du grand vizir Mustafa Pacha, qui a animé tout un petit milieu littéraire et historique auquel participait un auteur grec célèbre,
Kalkokondyl,
qui écrit en grec, mais qui est un écrivain ottoman, parce qu'il appartient à des milieux ottomans et qu'il, jusqu'à un certain point, il est dans la lignée de la vision ottomane des choses. Donc, nous avons plutôt cherché à répartir nos textes dans de grandes catégories. Alors, il y a 5 parties, je pense. Le mieux, c'est de reprendre le plan. Où est-ce que c'est à la
oui,
fin.
Donc, les historiens d'abord.
Les historiens d'abord.
C'est-à-dire ceux qui nous ont semblé donner vraiment une interprétation de l'événement, qui sont... Pas nécessairement des témoins oculaires, mais qui ont vécu au XVe siècle. On s'est arrêté à des textes composés au XVe ouais. siècle pour cette première partie sur les historiens, et qui donc essayent d'expliquer à leurs contemporains, et donc chacun avec les modes d'écriture qui leur sont propres, hein, une écriture souvent très poétique du côté des sources ottomanes, beaucoup plus réaliste par exemple du côté des sources latines.
Alors, ce sont des textes qui sont les récits de référence, en fait. Ce sont ceux sur lesquels se sont fondés les historiens postérieurs, immédiats, ou nous-mêmes, souvent d'ailleurs, hein, que ce soit, par exemple, Posculo, qui est une source de premier plan du côté latin, ou bien Doukas, qui est un historien extraordinaire du côté grec, ou encore côté ottoman, Tursun Bey que je citais. Alors, ce qui est particulier dans le cas des Ottomans, c'est qu'il semble que nous n'ayons aucun témoin de première main. Tursun Bey, qui est le plus riche, le plus précis, le plus intéressant, est arrivé juste après. En fait, il n'avait pas une grande passion pour les coups et les blessures, et lui préférait empiler les boîtes de conserve. Et il était resté à Bursa, où il faisait un travail de gratte-papier, c'est un scribe. Mais nous avons aussi, dans le même ordre d'idée, chez les Turcs, Aşık Paşazadeh, qui lui est un historien plus lié à des milieux plus proches des derviches, plus simples, et qui est une autre tradition littéraire que celle de Tursun, qui appartient à un milieu qui cherche à créer une nouvelle langue littéraire ottomane. À la fin du XVe siècle, car beaucoup de ces historiens travaillent en fait sous le règne du fils de Mehmed II, Bayezid II, qui cherche à donner ses lettres de noblesse à la grande prose ottomane. Et la grande prose ottomane, ça sera la prose historique. Ça, c'est un fait littéraire. Voilà.
La deuxième partie. Donc les documents, c'est-à-dire vraiment des sources qui nous renseignent sur les événements eux-mêmes. Et là, c'est très majoritairement des textes latins, c'est-à-dire que la principale source, c'est celle de Barbaro, Niccolo Barbaro, le journal tenu par ce médecin qui était sur une galère vénitienne au moment du siège et qui a raconté jour par jour et parfois heure par heure le déroulement des événements. Et c'est la source vraiment la plus précise qu'on ait. Parce que, étonnamment, les sources grecques, par exemple, qui racontent le siège, même ceux qui étaient sur place, n'entrent absolument pas dans ces détails. Barbaro est une source qui a été connue tardivement, qui a été connue à partir de, je crois, au XXe siècle, en fait, uniquement. Donc, jusque-là, l'histoire du siège a été faite à partir d'autres sources, mais on a pu combler beaucoup de lacunes et de manques qu'on avait dans l'information grâce à cette source-là. Et dans cette partie, nous avons aussi beaucoup de documents d'archives, et c'est aussi un des plus par rapport à l'autre entreprise italienne de Pertusi. C'est-à-dire que ces documents n'ont pas été écrits pour témoigner de la chute de Constantinople, mais en témoignent malgré eux, en quelque sorte. Vous avez par exemple un rubis qui avait été donné en gage par le dernier empereur Constantin XI contre un prêt de la part de bourgeois de Péra. Et une fois que la ville est tombée, que fait-on du rubis ? Alors, c'était 8 bourgeois qui s'étaient mis ensemble pour cotiser, pour prêter à l'empereur. Ils ne vont pas revenir sur leur fonds, c'est évident. Donc, il faut qu'ils se partagent entre eux le rubis. Voilà, on a la quittance. Donc, ce sont des documents qui sont vraiment très, très concrets, très précis, qui ont un effet de réel particulièrement intéressant. Et donc, on les a inclus dans ce...
Il y a aussi le cas très intéressant des livres achetés à bas prix.
Oui. On voit la circulation des livres, c'est-à-dire que la conquête, évidemment, enfin, les Ottomans, les soldats, quand ils rentrent, ils pillent tout ce qu'ils trouvent, et ils font des prisonniers. Et on voit revenir sur le marché des objets, des icônes, des livres, qui sont achetés éventuellement par n'importe qui, par d'autres Grecs, par des Juifs, etc. Donc il y a une circulation très très importante. Et du point de vue des manuscrits, il y en a aussi beaucoup qui partent en Occident à cette période-là.
Et on ne se pose pas toujours la question de savoir si l'authentique propriétaire spolié par les Turcs n'est pas toujours de ce monde. Voilà. Côté ottoman, on a aussi un certain nombre de documents tout à fait intéressants, très peu. Mais parce que les archives sont moins riches pour cette époque de ce côté-là. Mais on a par exemple une lettre écrite par un derviche au sultan à un moment où le moral des troupes ottomanes commence à baisser, un peu après une réussite spectaculaire de bateaux génois et byzantins qui ont réussi à pénétrer dans le port malgré la flotte ottomane. Et il lui écrit pour lui donner quelques indications sur la marche à suivre. On a également en grec, mais c'est un document ottoman, les capitulations concédées par le sultan aux Génois de Galata après la chute de la ville. On a la lettre en arabe envoyée par Mehmed II au sultan du Caire pour lui annoncer la victoire. Donner un récit officiel ottoman de la victoire, où il est très intéressant de voir comment il se pose par rapport au sultan mamelouk. Le grand souverain, le plus prestigieux, c'est le sultan mamelouk, auquel il montre de l'estime et du respect. Et il dit, mais moi, de mon côté, voilà, moi, je suis à la frontière et je fais de la Gaza, c'est moi qui vais faire progresser l'islam, chacun son rôle. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, la troisième partie est consacrée aux pleurs, aux monodies et lamentations.
Oui, donc les lamentations, on a parlé déjà des lamentations catalanes. Les lamentations grecques, c'est un genre très rhétorique, un genre vraiment obligé, et qui se réfère à l'Ancien Testament, aux lamentations de Jérémie, et Ézéchiel, la ville a été prise. C'est vraiment les Byzantins interprètent ça comme un rejet de la prise de Jérusalem telle qu'elle est racontée dans la Bible, et puisque c'est évidemment teinté de mysticisme, hein, l'idée est que la chute de la ville c'est une punition divine, et donc autant ils ne la décrivent pas, Autant il cherche par contre à l'interpréter et à l'interpréter dans un sens qui a des incidences politiques. C'est-à-dire que cette interprétation de la chute en tant que châtiment divin n'incite pas à la révolte, n'incite pas. Il y a en fait, après la chute de Constantinople, donc les Grecs dans l'ensemble sont faits prisonniers, mais se délivrent, se libèrent. Et il n'y a pas de mouvement de révolte, il n'y a pas d'organisation, ni même en lien avec l'Occident, par exemple. Il y a des tentatives de croisade, enfin des petits projets de croisade, mais qui n'arrivent pas au bout. Mais il n'y a pas de grand mouvement pour essayer de secouer de secouer la domination ottomane. Et les lamentations participent un petit peu de cette soumission déjà. Je pense qu'on peut. Mm-hmm.
Alors la quatrième partie, elle est également quelque chose de neuf. C'est celle qui est consacrée aux prophéties, apocalypse et textes mystiques, qui sont des textes que, justement, nos prédécesseurs ne jugeaient pas utiles d'introduire dans un recueil de ce type. Alors, il y a toute une tradition apocalyptique dans laquelle je n'entrerai pas, parce que c'est monstrueusement compliqué, qui voit dans la chute de la ville l'annonce de la fin des temps, fin des temps toujours reculé, bien sûr, parce que l'inconvénient d'une prédiction, c'est que quand on passe la date, eh bien, il n'y a plus qu'à repousser plus loin. Un des points extrêmement intéressants de tout ça, c'est que ce sont des thèmes qui vont et viennent d'une culture à l'autre, s'enrichissent à chaque fois un peu plus. Et donc, on voit des textes à la fois turcs et grecs, publiés par exemple Congourdeau, sur ces questions. Et nous y avons joint un certain nombre de textes ottomans. L'un qui est un chroniqueur, qui est Oluç, mais qui est intéressant parce qu'il reprend une série de considérations qu'on trouve dans ce qu'on appelait les chroniques anonymes, qui font de Constantinople une ville maudite, ce qui est prouvé par un certain nombre de trouvailles qu'on fait, de considérations apocalyptiques diverses, de mythes. C'est une ville maudite où il convient absolument de ne pas s'installer. Et c'est là une thématique extrêmement importante, parce qu'en fait, sous la couleur de textes qui sont quand même destinés à dire la gloire du grand sultan, puis on n'avait tout de même pas trop intérêt à lui chatouiller les moustaches, ce sont des textes d'opposition. Ce sont des textes qui viennent de milieux, de Gallipoli et d'Andrinople principalement, et d'Irnée aujourd'hui, qui sont hostiles à ce qui va être la politique de Mehmed II, une politique impériale. Maintenant que Mehmed II a conquis la capitale de l'Empire, eh bien, il considère qu'il est l'héritier de l'Empire. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir romain catholique. Hein. Ça veut dire que l'empereur, c'est lui, que l'Empire du monde est à lui. Et c'est d'ailleurs une idée dans laquelle un certain nombre d'urbanistes italiens, à la recherche de différents types d'avantages, vont l'entretenir. Et c'est un élément fondamental de l'image de soi que l'Empire ottoman va avoir dans les décennies, même les siècles qui suivent. Soliman le Magnifique refusera toujours de considérer les Habsbourg comme des empereurs. Il y a le roi d'Espagne et le roi de Vienne, Charles Quint et Ferdinand. Alors, le roi de France, qui est un allié, a droit à être appelé padishah de France, ce qui est quand même déjà beaucoup mieux. Mais il y a déjà dans le texte de Tursun Bey une profonde ironie concernant Constantin, donc en l'occurrence le véritable empereur byzantin, qui se prenait pour le tsar. Mais alors, ça ne veut pas dire que les Ottomans vont reprendre à leur compte le titre de Caïssar, ils vont en utiliser d'autres. Mais s'il doit y avoir un empereur, ça ne peut être que le sultan ottoman, qui d'ailleurs à cette époque-là est encore un bey. Et donc ce sont des textes qui sont hostiles à cette vision des choses. Ils estiment que il ne faut pas perdre de vue ce qui est l'identité, la nature profonde de cette entité sociale et politique qu'est l'Empire ottoman, qui est donc définie pour eux, parce que c'est leur univers à eux, par la Gaza, par cette expansion vers l'extérieur, par les razzias, par un rapport à l'étranger infidèle qui n'est pas celui que peut développer l'idée d'une capitale impériale. Et on a bien vu, comme je vous disais tout à l'heure, à quel point pour Mehmed II, sa capitale se devait d'être pluriethnique, plus religieuse, pluriculturelle. Ce n'était pas du tout comme ça que ces gens-là voyaient les choses. Et on y a joint deux autres textes, qui sont des hagiographies de saints. Un saint hostile au pouvoir et un saint qui collabore avec le pouvoir. On y retrouve ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres textes aussi, toujours cette même idée. Mermet II pense qu'il a pris Constantinople par les armes parce qu'il avait la force avec lui. En fait, il n'y comprend rien. C'est la puissance mystique qui a permis la conquête de Constantinople. Et le meilleur exemple, c'est mon ami Othman Baba. Je l'aime beaucoup, il m'amuse beaucoup. Othman Baba est un derviche qui s'est promené sur un nuage au-dessus de Constantinople. Il a regardé. C'est très intéressant, tout ça. Un de ces jours, je conquérirai cette ville. Et puis, quelques années plus tard, il est en train de pêcher le gardon quelque part en Bulgarie. Il lève le nez et il dit à ses camarades, « Ça y est, j'ai pris la ville. » Nous sommes le 29 mai 1453. Et ça dit très clairement qu'il y a une opposition larvée à un Mermet II qui n'a jamais été un personnage très populaire. Cette violence, ce goût pour la guerre, cette façon aussi, finalement, Mermet II était certainement un musulman très pieux et très convaincu, mais il avait une façon de... Enfin, certains, dans les milieux religieux, estimaient qu'il accordait trop d'importance à la force brute et pas assez d'importance à la force morale, c'est-à-dire à eux, bien entendu. La preuve en est donnée peu de temps après, car devant Belgrade, Mermet II échoue, et les textes disent que Mermet II reconnaît qu'en effet, il n'avait pas pris compte de l'importance de la force morale, et que c'est pour ça qu'il a échoué à Belgrade après avoir réussi à Constantinople. Voilà. Alors, la cinquième section... Après la bataille.
Après la bataille, donc c'est la mémoire de l'événement par les différents auteurs. Donc la plupart sont des auteurs ottomans, mais il y a un grec, le pseudo Sfrandzes, qui reprend le témoignage d'un auteur qui était un des témoins oculaires de la chute de Constantinople, qui est dans la partie sur les historiens, donc Sfrandzes. Et ce pseudo Sfrandzes se fait passer pour l'auteur du XVe siècle, en fait lui est écrit à la fin du XVIe, et raconte le siège avec tout un tas d'éléments qu'il puise dans les sources latines. Donc il a des informations beaucoup plus développées que les avait Sfrandzes. Et c'est cette histoire-là qui est passée ensuite dans la mémoire collective grecque. Et les Grecs se sont... Encore aujourd'hui, oui, pratiquement, se sont appropriés cette histoire de la chute de Constantinople comme si l'Empire byzantin était un empire grec et exclusivement grec, ce qui n'était pas le cas. C'était un empire multiculturel et en particulier slave. Donc ce texte a constitué vraiment l'histoire, le fil rouge de l'histoire telle qu'on la racontait encore jusqu'à récemment aux enfants dans le monde grec sur la prise de la ville.
Alors quant aux historiens ottomans, ce sont des historiens de la seconde ou troisième génération qui reconstruisent l'histoire à partir des sources antérieures avec un souci de faire de l'histoire en général, hein, tout simplement. L'un est un texte très court mais qui a le caractère intéressant d'avoir été rédigé par le dernier grand vizir de Mehmed II, Karamani Mehmed Pacha, en arabe d'ailleurs. D'autres sont des textes qui ont été commandés, comme je vous le disais, par Bayazid II, le fils, pour faire mettre en place cette grande, belle langue ottomane aussi belle à l'image de la littérature persane. Car si l'arabe est la langue de la religion et évidemment extrêmement respectée de ce fait, le grand critère, la grande langue de culture pour les Ottomans, c'est le persan. Ce qu'on cherche à imiter, c'est la culture persane. Ce qu'on cherche à dépasser, c'est la culture persane. Dans le domaine architectural, évidemment, Sainte-Sophie jouera un rôle important, mais c'est une autre histoire. On y a mis des historiens du XVIIe siècle, Hoxha Sadeddin, parce que il a servi à la vulgate de l'histoire ottomane par la suite. C'est l'auteur fin 16e, début 17e, que tout le monde va reprendre et citer parce qu'il a créé une synthèse bien faite, utile. Et nous nous sommes amusés, ce qui montre d'ailleurs son importance, à reproduire la traduction qu'en a faite Antoine Galland, l'orientaliste français du règne de Louis XIV, en la comparant au texte quand même, pour s'assurer que le grand maître n'avait pas fait de contresens. Il n'a pas vraiment fait de contresens, mais il traduisait comme on traduisait à l'époque, donc par moments ça tient plus de la glose que de la traduction mot à mot. Et Michel Balivet, notre ami Michel Balivet, a accepté de rédiger une petite synthèse sur des historiens du XVIIe siècle jusqu'à Evliya Çelebi, qui est un joyeux de riz, un voyageur plus ou moins fantaisiste, pour montrer comment, petit à petit, l'histoire entrait dans le mythe et la légende, et en particulier comment, dans une période de piétisme croissant dans l'Empire ottoman, le monde des religieux, des derviches, prenait une part de plus en plus importante dans la conception de l'événement. Voilà. Et puis, il y a un épilogue consacré à trois petites synthèses de ma collègue Elisabetta Borromeo et de moi-même sur le sort des vaincus, j'y reviendrai si vous le souhaitez, sur Rumeli Hisarı, donc ce fort construit pour bloquer les détroits et qui finalement a surtout servi de prison à l'usage des ambassadeurs avec qui on était en guerre ou des gens de ce type. Et enfin, sur la politique de restauration de la ville, de reconstruction de la ville, dont je vous ai très brièvement entretenu. Merci beaucoup.